Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 30 janvier 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 199 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, ça va être un peu différent qu'à l'habitude, c'est-à-dire que je vais parler d'investissement, mais pas d'investissement sur les marchés financiers, la bourse. Je veux en fait vous parler de l'investissement dans les entreprises privées. Donc, autrement dit, les compagnies qui ne sont pas cotées en bourse, c'est ce qu'on appelle le private equity. Et avant de vous parler de ça, je vais aussi vous parler de la possibilité de financer des business en devenant un prêteur privé. Donc, dans les deux cas, on parle d'entreprises privées, donc des entreprises qui vont pas se retrouver sur les marchés boursiers. Donc, dans le podcast, d'habitude, moi, je vous parle principalement de mes placements sur les marchés boursiers et un peu, en fait, la gestion du portefeuille de ma firme Traders 360. Par contre, je pense que ça pourrait être intéressant que je vous parle d'autres types d'investissements que je fais et un peu vous partager d'autres sources de revenus que j'ai à l'extérieur des transactions boursières, puis des revenus de formation d'infolep de Traders 360. J'ai un peu d'autres tentacules dans d'autres industries, dans d'autres entreprises. Et c'est toutes des affaires que vous pouvez faire également de votre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste une question d'investir dans d'autres choses que les placements en bourse ou encore l'immobilier. Et là, je vais vous expliquer un peu par où ça commence. Donc, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, de mon côté, j'offre du service conseil en entreprise, c'est-à-dire que je vais agir à titre de consultant pour mettre en place une meilleure structure au sein de l'entreprise, autant du point de vue opérationnel que du point de vue financier. Et évidemment, ben, je ne suis pas tout seul là-dedans, je suis entouré de professionnels, avocats, comptables, fiscalistes, experts en subventions gouvernementales, etc. Et honnêtement, l'objectif de mes mandats, c'est rarement le même. C'est-à-dire que, je peux vous donner un exemple, là, un de mes mandats, le but, c'était d'optimiser puis de systématiser une business dans le but de la vendre sur un horizon de 12 à 24 mois. Donc, la raison derrière ce mandat-là, c'est d'obtenir le meilleur prix de vente de l'entreprise, donc essayer de rendre ça le plus attrayant aux yeux des acheteurs, puis aussi de faciliter la transaction. Si à chaque fois qu'un acheteur y arrive puis il voit un paquet de problématiques dans l'entreprise ou que c'est pas y a pas de système à la place, il n'y a pas de procédure, pour lui, ça a moins de l'air d'une business que d'un opérateur qui gère toutes ses affaires. Donc, grosso modo, ça a été un de mes mandats. Mais bref, j'offre ce type de service-là et à l'occasion, ce que ça me permet de faire, c'est de me joindre à l'une ou l'autre de ces compagnies-là, que ce soit en devenant un partenaire d'affaires, en achetant des parts, des actions ou en mettant en place un CA, un conseil d'administration dans lequel je fais partie. Donc, ça peut être des rencontres trimestrielles, le but étant que je continue de donner mon input aux dirigeants de l'entreprise. Et à ce moment-là, avec toutes ces possibilités-là, une autre avenue dans laquelle j'ai décidé de me lancer prochainement, c'est d'offrir des prêts à des entrepreneurs qui n'arrivent pas à obtenir du financement auprès des institutions financières qui sont standards, les banques. Et je veux vous parler de ça parce que, à mon avis, ça peut être une bonne opportunité d'investissement pour du monde qui sont prêts à faire ce genre de move-là. Et tu sais, je vous explique un peu, les banques, eux autres, ils ont des critères très précis à respecter pour prêter de l'argent. T'sais, ils vont regarder les revenus, le ratio d'endettement, les actifs, et ils vont se baser là-dessus exclusivement pour arriver à la décision s'ils prêtent de l'argent ou non, puis également le montant et les modalités de remboursement, y compris le taux d'intérêt. Tandis que de mon côté, en tant que prêteur privé, si je connais les actionnaires, je connais leur réalité, leur situation financière autant personnelle que celle de l'entreprise, que je comprends leur modèle d'affaires et surtout que je crois en leur concept, je serais peut-être plus enclin à ce moment-là à prendre peut-être plus de risques que les banques pour leur offrir un prêt. Encore là, je ne suis pas plus niaiseux qu'un autre, c'est-à-dire que mes prêts, le plus souvent possible, seraient cautionnés par quelque chose, c'est-à-dire que je ne vais pas te prêter 50 000 sans garantie, juste parce que tu me parais sympathique. Et c'est sûr que l'objectif de ce type de prêt-là, ce serait pas de prêter de l'argent pour que le gars soit capable de rembourser ses autres dettes. T'sais, idéalement, je veux financer de la croissance, que ce soit de l'achat d'équipement, de grossir les locaux, faire un gros coup de publicité, quelque chose qui ferait en sorte qu'on va chercher une croissance. Il faut comprendre qu'il y a une stratégie derrière ça aussi, c'est-à-dire que le prêt, il pourrait être conditionnel à ce qu'il prenne un mandat de service conseil pour que je puisse garder un œil sur les finances et également le guider dans ses décisions financières. Fait que ça fait en sorte que ce qui fait en sorte que ça vient un peu me sécuriser vis-à-vis le prêt que j'ai fait. Par contre, il faut comprendre que pour ceux qui empruntent, c'est sûr que le taux d'intérêt va être plus élevé que ce que tu pourras obtenir dans une banque traditionnelle. Évidemment, tu sais, en tant que prêteur privé, il y a des règles à respecter de ce côté-là. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire qu'il y a des lois concernant les taux d'intérêt, les frais que tu peux charger. Puis si tu fais un prêt à un particulier, ben à ce moment-là, il faut que tu aies un permis auprès de l'Office de la protection du consommateur, l'OPC, pour justement faire ce type de prêt-là. Encore une fois, je vous parle de ça parce que c'est aussi quelque chose que vous pourriez faire de votre côté, dans le sens que si vous avez une entreprise ou même au personnel, si vous avez de la liquidité excédentaire, de l'argent qui dort, puis que vous cherchez du rendement à l'extérieur des marchés boursiers ou de l'immobilier, ben c'est quelque chose qui est possible de faire, dans le sens que j'ai pas infini argent non plus. Donc l'idée, ça pourrait être par exemple de faire un regroupement de personnes ou d'entreprises qui font un espèce de pot commun pour faire du prêt privé. Et dans l'environnement économique dans lequel on se trouve présentement, il va y avoir bien des entrepreneurs qui risquent d'avoir besoin de financement. Et parmi ceux-ci, il y en a quelques-uns qui ne seront pas approuvés par les banques pour toutes sortes de raisons. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, l'avenue du prêt privé aux entreprises, ça reste une opportunité qui peut être très intéressante. Et bref, de mon bord, la consultation en entreprise, c'est ça qui me permet d'avoir une exposition à différentes industries au Québec. Tu sais, juste pour en nommer quelques-unes, je touche au domaine de la construction, au secteur agricole, au garage automobile, etc. Et je tiens à préciser que ben moi, je ne suis pas la BDC, je ne suis pas un dragon non plus. Donc, autrement dit, mon but, c'est pas d'offrir du prêt privé, de venir financer des startups en me basant sur leur plan d'affaires ou leur projection financière. Tu sais, ben franchement, si je prête de l'argent, faut que je m'assure que si tu me rembourses pas, ben je suis backé par quelque chose, puis il faut qu'il y ait un modèle d'affaires en place, pas juste une idée, un concept. Tout ça pour dire que l'avenue d'offrir du financement aux entrepreneurs, aux PME, ben c'est une autre façon d'aller chercher du rendement sur de l'argent qui n'est pas investi. Et encore là, il y a une certaine prise de risque là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a de la gestion. Si jamais il y a des retards ou si jamais il ne te rembourse pas, ben il y a des choses à faire pour aller récupérer la somme que tu as investie, que tu as prêtée. Mais tu sais, présentement, avec la hausse des taux d'intérêt, dans le prêt privé, on parle de 14, 15, 16 % de taux d'intérêt annuel, plus des frais d'ouverture de dossier que tu ramasses journée 1. Fait que c'est sûr que le risque-récompense et le ratio risque-récompense est intéressant. Et bref, je pense que dans les prochaines années, les prêteurs privés vont être en mesure d'avoir de la bonne business puis du bon rendement sur l'argent qu'ils vont prêter. Ensuite, dans la deuxième portion de l'épisode, je voulais aussi vous parler du private equity parce que c'est important de réaliser que vous n'êtes pas limité à investir dans des entreprises qui sont cotées en bourse, tu sais, sur le TSX, la bourse de New York, le Nasdaq. C'est souvent ça la première chose qui nous vient en tête quand on parle d'investir, surtout d'investir dans des entreprises. Mais en fait, tu peux également faire du private equity, soit en devenant un actionnaire d'une compagnie privée, c'est-à-dire une compagnie qui est non cotée en bourse. Sinon, tu peux également investir dans des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans le private equity. Tu as également le marché dispensé. Donc, je veux parler un peu de tout ça, mais ça reste que les actions cotées en bourse, c'est l'option la plus simple est la plus « safe », entre guillemets, parce que ça dépend quelle action tu achètes. C'est sûr que si tu es sur le marché OTC et tu achètes des penny stocks, on peut oublier le côté sécuritaire, mais dans l'ensemble, on peut dire que les entreprises qui valent une couple de milliards, qui sont cotées sur les marchés boursiers, bien, on sait qu'ils sont scrutés par les autorités de réglementation. Il y a aussi leurs résultats financiers trimestriels qui sont publics puis qui sont analysés par des dizaines d'analystes. Donc, c'est sûr que du côté de la valorisation de l'entreprise, il y a quand même un consensus. Et l'autre chose également, c'est que les actions des entreprises qui sont cotées en bourse, ils sont disponibles au grand public. Donc, n'importe quel investisseur peut acheter des parts via une plateforme de courtage en ligne. Tu sais, c'est très liquide, donc tu es à deux clics près d'acheter ou vendre des actions. C'est sûr que la mécanique pour acheter des parts d'une entreprise privée, c'est un petit peu plus compliqué que ça. De un, la première chose, c'est de trouver l'opportunité d'investissement parce que c'est pas tous les business qui veulent vendre une partie de leur action. C'est pas tous les business qui veulent faire ça. Puis même s'ils veulent faire ça, tu le sais peut-être pas. Là, c'est pas écrit devant le building « Nous sommes prêts à vendre nos actions ». Donc, il y a ce côté-là qui est un peu plus difficile. C'est sûr que de mon bord, justement, avec le podcast, avec le service conseil en entreprise, je suis plus exposé à ce type de deal-là, d'occasion d'affaires. Mais bref, pour la majorité du monde, trouver un investissement dans une entreprise privée, c'est plus, faut que les étoiles soient alignées ou que tu sois dans ce domaine-là, là, que tu sois constamment dans le B2B, business to business. Puis là, à ce moment-là, oui, tu peux déceler des opportunités, tu peux même proposer des choses, mais investir dans une entreprise privée pour acheter des parts, c'est quelque chose qui est un peu plus long et complexe que des actions cotées en bourse. Et la deuxième chose du côté de l'investissement privé, c'est la question de l'évaluation de la valeur de l'entreprise. Comme je vous dis, une action, c'est coté en bourse, le prix, il est affiché en direct, en temps réel. C'est pas la même chose dans le private equity, dans le sens que, premièrement, il y a plus qu'une manière d'évaluer la valeur d'une business. Tu sais, le plus souvent, on va se servir du BAIIA, qui est le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement. En gros, le BAIIA, ça permet d'établir la rentabilité des opérations de l'entreprise sans tenir compte des dépenses hors exploitation comme les intérêts sur la dette puis les impôts. Donc, le BAIIA, c'est un indicateur qui est souvent utilisé pour évaluer la valeur d'une entreprise dans le privé. Mais évidemment, il y a aussi la question des actifs de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise détient le bâtiment et le terrain sur lequel elle opère, logiquement, ça vaut de quoi? Là? C'est de l'immobilier. Et même principe pour tout l'équipement qu'elle possède. Bref, faire l'évaluation d'une business, oui, il y a des calculs puis des éléments standards à prendre en compte, mais ça reste toujours un peu subjectif. C'est pas une science exacte. Mais au final, l'idée d'investir dans le private equity, que ce soit vous en achetant vous-même des actions ou par le biais de fonds d'investissement ou via le marché dispensé, le but en fait, c'est d'aller acheter des parts dans l'entreprise dans le but de fournir du capital pour aller chercher de la croissance pour que, de votre côté finalement, maximiser votre taux sur investissement. T'sais, théoriquement, c'est plus facile d'aller chercher un taux de croissance élevé avec une entreprise privée qui est évaluée à 2-3 millions versus une compagnie publique qui vaut déjà 50 milliards. Au fait, je dis ça, là, mais ce qui est coquant, c'est que dernièrement, les big tech, comme Microsoft et Apple, qui valent dans les 3 trillions de dollars, ben les big tech ils affichent quand même un taux de croissance dans les deux chiffres. Donc, c'est impressionnant comme rendement parce que sont encore en mesure de continuer de croître avec une forte vélocité malgré leur évaluation qui est vraiment gigantesque. Normalement, plus l'entreprise a une faible évaluation, plus il est facile de la scaler puis d'aller chercher un taux de croissance élevé au fil des années. Parce que passer de 50 milliards à 100 milliards, tu fais deux fois, mais tu vas chercher 50 milliards de plus en valorisation versus passer de 2 millions à 4 millions. Oui, tu dois, mais tu as juste 2 millions supplémentaires à aller chercher. Donc, généralement, le taux de croissance est supérieur lorsqu'on se dirige dans des petites moyennes entreprises qui vont justement avoir un potentiel de croissance très élevé. Et c'est un peu ça l'idée derrière le private equity. Et c'est pour ça que je pense que c'est une avenue intéressante pour venir diversifier vos investissements pour aller chercher du rendement supplémentaire qui n'est pas corrélé avec les marchés boursiers. Encore là, je pense que ça s'adresse davantage à des personnes qui ont déjà une bonne valeur nette, qui ont déjà des placements en bourse ou de l'immobilier et qui veulent seulement venir avoir une exposition au monde des investissements alternatifs. Et quand je dis investissement alternatif, c'est justement le private equity. Là, par exemple, tu peux passer via des firmes spécialisées qui gèrent eux-mêmes un portefeuille d'entreprises privées. Il y a des firmes qui se spécialisent dans le secteur de la santé, dans le secteur technologique. Mais bref, ils ont un portefeuille d'entreprises privées. Puis vous investissez dans cette firme-là qui vous donne déjà une certaine diversification. Mais il y a aussi le marché dispensé. Grosso modo, le marché dispensé, ça permet à des investisseurs de détail d'avoir accès à l'investissement privé. Et là, on ne passe pas nécessairement via des firmes de private equity. Tu peux passer directement via un courtier qui a accès au marché dispensé. Et le marché dispensé, ça te permet de fournir des capitaux propres à des entreprises privées, soit sous forme de dette, donc ça ressemble un peu à des obligations sur les marchés financiers, ou sinon c'est sous forme d'équité. Autrement dit, tu peux soit donner des capitaux propres, de l'argent, puis recevoir un pourcentage d'intérêt prédéterminé, qui est très intéressant dans le marché dispensé, ou sinon tu peux détenir des parts de la compagnie pour bénéficier de sa croissance future. Et une petite précision intéressante, à noter que la plupart des titres sur le marché dispensé, ben, ils sont admissibles en tant que placement dans des comptes enregistrés. Donc, autrement dit, vous pouvez investir dans le marché dispensé à l'intérieur de votre CELI ou de votre REER. Sinon, pour conclure le volet sur le private equity, je vous rappelle que vous avez toujours l'option aussi d'acheter directement des actions d'une entreprise privée pour devenir actionnaire. Et à ce moment-là, ben, vous injectez des fonds à l'achat de vos parts pour participer à la croissance d'entreprise. Vous pouvez également, tu sais, oui, offrir du capital, mais vous pouvez également offrir votre expertise, votre réseau de contacts, vos partenaires d'affaires. Vous pouvez avoir une vision, une stratégie qu'en devenant un partenaire financier ou en devenant un actionnaire avec eux autres, ça amène la business à un autre niveau. Donc, le private equity, c'est ça aussi. Et de mon côté, c'est un peu l'angle que j'ai pris via les consultations d'entreprise, le service conseil. Tu sais, moi, si j'ai le choix de te facturer des honoraires pour franchiser ton concept puis développer ton réseau de franchise puis que tu fasses des millions avec ça, ou que je devienne actionnaire minoritaire de ton entreprise et que je puisse profiter à ce moment-là de la croissance qu'on a bâtie ensemble, pour moi, le choix est facile. C'est sûr que de devenir partenaire, d'investir dans ce type d'entreprise-là versus charger des frais de consultation sur le long terme, si je crois au modèle d'affaires, si je crois aux opérateurs, puis que je veux devenir un associé là-dedans, pour moi, c'est tout le temps l'avenue qui est la plus rentable. Autant pour moi que pour les dirigeants de l'entreprise qui ont décidé de vendre une partie de leur action, tu sais, le but de ce genre de move-là, c'est d'aligner les intérêts, qu'on ait toute la même vision, puis qu'on s'enligne pour faire passer la business à un autre niveau. Si tu affiches un chiffre d'affaires de 2 millions, puis qu'on passe à 5 millions de chiffre d'affaires, on est tous gagnants dans l'équation. Donc, c'est un peu l'objectif de mon côté dans le private equity. Et je pense que c'est une opportunité qui est peut-être limitée pour certaines personnes. C'est plus difficile, comme je vous dis, que d'acheter des actions cotées en bourse. Mais ça reste une avenue via le marché dispensé ou encore les fonds d'investissement spécialisés dans le private equity. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant, autant du côté des prêteurs privés que du private equity. J'espère que ça a un peu élargi vos horizons. Peut-être que ça vous a même donné des idées ou vous avez pensé peut-être à des opportunités d'investissement. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.